Alfa. Muito obrigado por estar desse lado ligado ao Alfa 1013. Estou agora na companhia de José Rodrigues dos Santos. Olá, Zé.
Olá, tudo bem?
Como estás?
Tudo ótimo. Um prazer estar aqui.
É sempre um enorme prazer receber-te no meu programa. Aliás, já se tornou quase um hábito. A cada novo livro, ou pelo menos a cada tradução para francês de uma das tuas obras, temos a oportunidade de nos reencontrar e conversar. E felizmente, desta vez não é exceção. No passado mês de outubro, publicaste em Portugal o Sexto Sentido e vens agora falar-nos do Le Sixième Sens, ou seja, o mesmo romance traduzido em francês, que chega às livrarias na quinta-feira, dia 9 de abril. Adorava continuar esta conversa contigo em português, mas a pedido da tua editora francesa, e compreende-se perfeitamente, vamos agora prosseguir em francês. Isso também faz parte da magia da Rádio Alfa, da cultura lusodescendente, a possibilidade de navegar naturalmente do português ao francês. E a Rádio Alfa também é, relembramos, uma rádio francesa de expressão portuguesa. Donc, on passe au français, d'autant que tu parles toi-même très bien le français.
Oh, je fais l'effort.
Dans ce nouveau livre, vous explorez les liens entre science et religion par un biais tout à fait intéressant, celui des psychédéliques, autrement dit les drogues hallucinogènes. Accède-t-on au divin en nous lorsqu'on se drogue? Je pose cette question puisque c'est le sens du mot entéogène que nous allons évidemment questionner durant cet entretien et qui revient immensément dans votre roman. Dans ce roman donc, Le Sixième Sens, publié aux éditions Hervé Chopin, on retrouve votre personnage fétiche, Tomáš Noroň, qui est lié, cette fois, il lui arrive toujours des catastrophes exceptionnelles, à la mort d'un homme qui a chuté du 10e étage d'un hôtel à Lisbonne au cours d'une nuit, juste après avoir murmuré « Unio mystica mysterium tremendum ». Est-ce un suicide? Est-ce un assassinat? Pourquoi a-t-il prononcé ces mots? Et surtout, que veulent-ils dire? Je ne vais pour le moment pas en dire plus. Qu'est-ce qui vous a poussé, Zé, à écrire un livre sur les expériences psychédéliques, sur les hallucinogènes, sur les substances dites entéogènes?
Alors, ce qui se passe, c'est que, bon, je cherchais un sujet de roman, et ma fille, la plus jeune, Inès, elle m'a proposé le sujet. J'ai dit, mais non, pas du tout, hein, ce sont les drogues. Non, mais tu te trompes, il y a des choses très intéressantes. Alors j'ai commencé à lire et finalement, pendant la recherche, j'ai compris que, en effet, elle avait raison. Il y a tout un sujet très, très puissant sur les psychédéliques dont il nous faut parler. Et en effet, les grands centres scientifiques de tout le monde étudie pour des raisons thérapeutiques, même à Lisbonne, l'Institut Champalimau le fait, mais à Paris, l'Institut du cerveau, en Angleterre, l'Imperial College, aux États-Unis, plusieurs organisations, en Suisse, en Belgique, au Canada, bon, en effet, partout, et même les psychédéliques deviennent... des médicaments, à cet instant, par exemple, au Portugal, Infarmed, l'organisation qui fait la permission des médicaments, a permis d'utiliser les psychédéliques pour des thérapies. Mais il y a tout un côté aussi philosophique qui m'a intéressé et dont je parle dans le roman Le Sixième Sens. En effet, j'ai ici, c'est là la couverture du bouquin en français, exactement la couverture de l'édition portugaise. C'est la même chose et bon, il va sortir maintenant.
Et alors, on va parler aussi du côté philosophique, comme vous l'évoquiez, des psychédéliques. Mais d'abord, rappelez-nous précisément, qu'est-ce qu'on appelle une substance psychédélique?
Alors, on a des visions sur les choses, n'importe quoi. On a ces visions, ces hallucinations. Mais la question qu'on se présente ici, c'est que ces hallucinations, en effet, ne sont pas une chose produite seulement pour l'imagination, sont des visions vraies. Et il y a une chose intéressante, on parle souvent des expériences de mort imminente, vous connaissez bien. Alors, je me souviens qu'un jour, ma femme, elle s'est réveillée à Lisbonne, elle m'a dit « Ah, j'ai eu un rêve extraordinaire ». Et normalement, ses rêves sont minables, parce qu'elle ne se souvient pas ses rêves, et puis quand elle se souvient, elles sont très pauvres. Et là, non, elle a dit, moi, j'ai eu un rêve extraordinaire, je me souviens de tout, j'ai jamais eu un rêve comme ça. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, bon, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un tunnel, il avait une lumière à la fin du tunnel, et puis je suis sorti du tunnel, il y avait un être Devan, en effet, une personnalité extraordinaire, spirituelle, qui m'a embrassé, et j'ai eu une sensation d'amour très profonde, et tout était merveilleux. Et puis, j'ai commencé à me balader dans notre coin. Il avait une emplage, j'ai vu un homme qui s'approchait, c'était mon père. Et mon père me posait la question, mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je me balade, mais c'est merveilleux, tu vois. Ah oui, c'est vrai, mais il te faut de retourner parce que tu as des choses encore à faire dans la vie. Mais je vais rester ici, c'est si agréable, c'est si merveilleux. Non, non, mais il faut que tu retournes. Alors, le rêve s'est cassé. Bon, elle s'est réveillée. Et bon, on comprend ça comme une expérience de mort imminente. Beaucoup de monde sont proches de la mort parlent de ce genre d'expérience, de tunnel, d'un être lumineux qu'on trouve à l'autre côté. Et puis, une personne, quelqu'un qui est décédé dans la famille, qu'on trouve et tout ça. Et puis, on retourne à la vie, pour ainsi dire. Et j'ai écrit un roman qui s'appelle « La clé de Salomon ». Charles Salmon, un portugais. En effet, c'est une idée qu'Hubert Rive m'a donnée aussi. Le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Et je me souviens, quand j'ai présenté ce bouquin-là à Lisbonne, dans le maquillage à TVI, j'étais invité pour parler du bouquin. Il y avait aussi un psychiatre de l'Université de Lisbonne dont la thèse doctorale était sur l'expérience morte imminente. Et je lui ai dit, bon, c'est un sujet fort intéressant, mais je lui ai raconté ce rêve de ma femme, et puis je lui ai dit, mais écoutez, ça ne peut pas être mort imminente, car ma femme, elle n'était pas proche de la mort, c'était un rêve. Mm-hmm. En plus, son père, il était vivant à cette époque-là. Et il m'a dit, bon, écoutez, quand j'ai fait ma thèse doctorale ici à Lisbonne, j'ai créé ces expériences mort imminente par hypnose à mes élèves. Ils ont fait volontiers pour des expériences. Alors, on pouvait reconstituer ces expériences, mais par hypnose. Et il se passait quelquefois que mes élèves me disaient, bon, j'ai trouvé ma grand-mère, mais elle est vivante. Et j'ai trouvé mon oncle, mais il est vivant. Et j'ai remarqué que un petit peu après ces rêves, ces gens-là décédaient. Et en effet, c'est ce qui s'est passé avec le père de ma femme. Il est décédé quelques mois plus tard. Alors il a dit, ils sont des prémonitions. Ces rêves nous racontent des prémonitions. Ce sont en effet des informations qui arrivent du futur pour le passé.
Donc vous nous dites qu'on peut faire l'expérience de la mort, avoir des prémonitions quand on consomme des substances psychédéliques.
Oui, exactement. Alors, les substances psychédéliques, c'est pas exactement ça, mais il y a beaucoup de points en commun avec ce genre de rêve, ce genre de vision. Alors, il est intéressant de remarquer que, les psychédéliques, ils étaient très connus les années 60, mais jusqu'aux 70. Puis, on a interdit parce qu'on a trouvé que c'était trop dangereux. C'est pas vrai, ils ne sont pas très dangereux, en effet. Un psychédélique est moins toxique que l'alcool, le vin est plus toxique que le psychédélique, et en plus, le psychédélique n'amène pas aux addictions. On ne devient pas accro aux psychédéliques. C'est différent par rapport aux autres drogues, mais dans le cas du psychédélique, non, c'est comme une aspirine, on prend et c'est ça. Et alors, en 2006, aux États-Unis, après une très grande interdiction, dans l'université de Johns Hopkins, des scientifiques avec un très grand prestige, ils ont fait une expérience avec un psychédélique qui s'appelle psilocybine. Ils ont donné psilocybine à des malades terminales du cancer, des gens qui savaient qu'ils allaient mourir. Ils étaient très dépressifs et avec une très grande anxiété, car ils savaient qu'ils allaient mourir en quelques semaines, en quelques jours, en deux, trois mois, je vais mourir. Mm-hmm. Alors, on n'est pas content, hein, c'est clair. Les gens étaient très tristes et ils n'avaient aucune possibilité de les récupérer. Alors, ils ont donné de la psilocybine à ces gens-là et ils ont découvert un 80% de ces malades, une chute très puissante de la dépression et de l'anxiété. Il y avait beaucoup d'eux ont même perdu la peur de la mort. Et ça nous amène au rêve de ma femme, parce que c'est ce qu'ils avaient. Pendant ces hallucinations, ils disaient que c'était merveilleux. Ils avaient la sensation de les choses étaient plus réelles dans l'hallucination que la réalité, exactement comme les expériences mortes imminentes. Et en plus, ils ont compris que la mort n'est pas la fin. Il y avait quelque chose de bizarre là-dedans, qu'il se passait que des choses après. Alors, ils ont perdu la peur de la mort. Et ça a déclenché un tas de d'expériences par tout le monde. Par exemple, j'ai dit que les psychédéliques, ils ne sont pas, comment dire, on ne devient pas accro. Mm-hmm. Ils ne sont pas addictifs. Mais plus que ça, ils peuvent guérir pas seulement l'anxiété, pas seulement la dépression, mais et les neuroses, mais aussi les addictions. Ils peuvent guérir les addictions. Il y a une expérience très intéressante dans un hôpital psychiatrique au Canada, avec des 700 personnes qui étaient des alcooliques. Et ils ont donné une seule dose de psilocybine, et immédiatement 50%, la moitié, ont arrêté immédiatement de boire de l'alcool. Pourquoi ça s'est passé? Parce que le psychédélique, l'amène à des visions, des hallucinations. Mais ces hallucinations disaient des choses vraies. Par exemple, un homme prenait la psilocybine et il commençait à voir à lui-même, à entrer chez lui et à agresser sa femme et ses enfants. Mais pas de sa perspective, mais de la perspective de sa femme ou de ses enfants. Et il comprenait qu'il était en train de détruire sa famille. Et après les faits, il s'est dit « Non, il doit que j'arrête de boire. » Et c'est ainsi que la moitié a immédiatement arrêté de boire avec seulement une dose de psilocybine. La même chose pour le tabac. Les gens qui fument des cigarettes, ils prennent les psychédéliques et ils ont des visions, ils font des voyages dans leur corps, ils vont à leurs poumons, ils voient ce qui se passe là-dedans. Ils sont terrifiés par ce qu'ils voient. Alors, c'est cette vision que les hallucinations nous donnent, qui sont finalement des visions vraies, car le mec qui se voit entrer chez lui pour agresser sa femme et ses enfants, c'est une vision vraie. Et le mec qui fait un voyage dans son corps, il va voir des choses vraies sur ce qui se passe dans son corps, là-dedans, après fumer du tabac. Et ils sont terrifiés parce qu'ils voient. Il y a même des gens qui ont découvert qu'ils avaient du cancer au poumon. Mmh. Ces visions nous disent des choses vraies sur nous-mêmes. Et la question que je présente dans le bouquin, c'est que si les psychédéliques nous disent des choses vraies sur nous-mêmes, est-ce qu'ils nous disent la même chose, des choses vraies sur l'univers, sur la vie, sur notre existence? Et là, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Et là, on va plonger sur le rêve de ma femme et on va découvrir un tas de choses que les psychédéliques nous disent sur la vie, sur la mort, sur ce qui se passe quand on meurt, qui sont en effet confirmées par les grandes découvertes de la science. Alors, les psychédéliques nous disent des choses vraies. Et c'est ça ce qui m'a intéressé dans ce bouquin-là. Alors, par le biais d'une histoire d'un polar, d'un thriller, et un petit peu une histoire d'espionnage avec notre héros Thomas, avec ce décès à Lisbonne de l'hôtel Sheraton, un homme qui a shooté de l'hôtel. Et en effet, c'est basé sur un fait réel aussi. Mmh. Ça va nous plonger sur des choses que les psychédéliques nous disent sur nous-mêmes et sur l'univers qui sont, je trouve, très intéressants.
Oui, puisqu'on le comprend bien à la lecture de votre livre, les personnes qui consomment ce genre de substances éprouvent la réalité plus réelle encore, les odeurs sont plus fortes, les couleurs sont plus vives, les sensations sont démesurément éprouvées, la conscience de soi est extrême, on se perçoit différemment et on interagit différemment avec le monde. Comment savez-vous tout cela, Zay? Combien de drogues avez-vous consommé pour pouvoir écrire ce livre?
Non, j'ai rien consommé de drogue, jamais. Mais je trouve que si une personne est très, très dépressive, ou avec beaucoup d'anxiété, ça fait du sens. Parce que avec une session de psilocybine, par exemple, on peut guérir les gens que par des moyens normaux avec le psychiatre, on n'arrive pas à le faire. Aussi, les gens deviennent plus tolérants, plus ouverts au monde. Il y a une histoire très intéressante, je vous raconte à la fin, c'est une histoire que j'ai trouvée sur la BBC. Ça s'est passé en 2019, je pense. Une université américaine, ils ont fait des expériences avec des gens, avec des psychédéliques. Et ces gens-là, à la fin, ils répondaient à un questionnaire. Et après, les scientifiques, ils lisaient les réponses. Et un de ces questionnaires, la personne a écrit, après cette expérience avec la psilocybine, avec le psychédélique, googlez mon nom. Alors, ils étaient intrigués par ce message. Alors, ils ont googlé son nom. Et les filles, ils ont découvert que c'était un homme très violent. Vraiment très, très violent. Il avait agressé beaucoup de personnes, tout ça. Et alors, ils ont paniqué. Ce mec-là, il va, comme on fait souvent en Amérique, il va prendre un fusil, il va tuer des gens. Et puis, il va dire que c'est la faute des psychédéliques et de notre université. Alors, ils ont paniqué. Ils ont décidé de le téléphoner pour savoir ce qui se passait. Parce que si c'était une chose dangereuse, il appellerait la police pour arrêter le mec. Alors, ils ont appelé. Alors, monsieur, vous étiez ici à l'université? Oui, oui, en effet. Dans le formulaire, vous avez dit, je sais ce que je dois faire maintenant. Que voulez-vous dire? Et il a répondu, mais vous savez, je suis une personne... Bon, compliqué, j'ai eu beaucoup d'ennui dans ma vie, je suis arrêté plusieurs fois par agression et tout ça. Et finalement, avec cette expérience, avec ces hallucinations, j'ai compris l'univers. Et j'ai compris que la force la plus importante de l'univers est l'amour.
Et oui, j'allais vous interroger là-dessus justement, oui. Puisque je vais vous confesser que la lecture de votre livre m'a fait avoir une pensée un peu ridicule. Le sixième sens, qui est le titre de cet ouvrage, n'est-il pas simplement l'amour? Les entéogènes qui sont le centre de ce roman ne sont-ils pas la voie d'accès la plus rapide à ce sentiment qui est comme celui d'aimer, un sentiment de pleine confiance dans lequel l'ego ne prend aucune place, un sentiment total de connexion à l'autre?
Oui, en effet, mais la question, le titre, le sixième sens, c'est basé sur une expérience faite au Imperial College à Londres. Ils ont pris une personne qui a fait pendant une expérience de psychédéliques, ils ont pris des mesurations de son cerveau avec des nouvelles techniques, avec des nouvelles technologies pour voir ce qui se passe dans le cerveau. Et ils ont compris que pendant la vision, le cerveau il devient très actif, plus actif que le normal. Et en plus, il se comporte d'une façon différente du normal. Un fonctionnement tout à fait différent. Et la question que je pose dans ce livre, c'est, vous savez, nous avons cinq sens, en effet. Mais il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas, car nos sens ne sont pas préparés pour voir. Par exemple, entre moi et vous, il y a un gaz qu'on appelle l'air, l'oxygène, l'hydrogène, et l'azote et tout ça. Mais on ne le voit pas. Mais il est là. Le fait que je ne le vois pas, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas là. Il est là. Il est invisible à mes sens. Alors, il y a beaucoup de choses dans les infrarouges. Par exemple, c'est la même chose. Au-delà du rouge, on ne voit plus les couleurs. Mais il y a des couleurs là. Les oiseaux, ils voient des couleurs que nous ne voyons pas.
Oui, il y a des sons qui nous sont imperceptibles.
Exactement, c'est ça. Alors, la question, c'est, et si cette expérience de l'Imperial College qui a été faite, c'est assez récent, il y a 10 années, nous révèle un sixième sens qui nous amène à voir des choses que normalement on ne voit pas. Car c'est ça ce qui se passe dans ces expériences des hallucinogènes. Les gens, ils découvrent qu'ils ont un cancer dans leur poumon, dans un voyage dans son corps. Il y a des gens qui avaient des traumas. Et avec les psychédéliques, ils ont arrivé à comprendre que ces traumas sont passés quand ils étaient dans sa mère, quand sa mère était enceinte d'eux. Vous comprenez? Ils avaient des mémoires quand ils étaient même des bébés là-dedans. Et puis le psychiatre posait la question à la mère, mais est-ce que vous avez... Non, il ne savait pas, j'ai jamais raconté cette expérience. Mais c'est passé. Il était traumatisé par ça. Alors, les psychédéliques nous disent des choses vraies sur nous-mêmes, sur des choses qu'on n'arrive pas à comprendre par des autres moyens. Notamment aussi avoir les prémonitions, voir les informations du futur pour le passé. Pardon, le passé pour le futur. Normalement, on connaît le passé, mais on ne connaît pas le futur. L'information voyage du passé pour le futur. Mais en science aujourd'hui, on comprend, dans la physique, qu'il est possible l'information de voyager du futur pour le passé. Je l'explique dans ce livre-là et aussi dans la clé de Salomon, je l'explique aussi. C'est la science, attention. C'est pas.
Oui, c'est ça, puisque je précise que votre livre, le Sixième Sens, donc publié aux éditions Hervé Chopin, s'appuie sur de véritables travaux concernant les psychédéliques, s'appuie sur de véritables découvertes scientifiques. D'ailleurs, l'intégralité du roman a été lue et revue par un spécialiste du Centre Champalimaud à Lisbonne.
Oui, en effet. Mais ici, je parle de la physique. C'est pas seulement la médecine, c'est la physique, vraiment.
Oui, parce que le roman est lié aussi à la physique quantique, à la physique des particules.
Exactement. Et dans la physique des particules, il est clair, maintenant, aujourd'hui, qu'il y a des informations qui voyagent du futur pour le passé. Voire, on a des informations sur le futur. Voire, on a des prémonitions. Et alors, dans les psychédéliques, on a aussi ces prémonitions. On obtient des informations qui ne sont pas visibles pour les gens, mais ils sachent par ces visions. Et c'est ça ce qui m'a intéressé. C'est que peut-être le cerveau, quand il prend ces substances, il change sa façon de fonctionner et il va réveiller un sixième sens pour voir des choses qui normalement ne sont pas accessibles. Et une de ces choses, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe quand on meurt. C'est pourquoi les gens perdent la peur de mourir. Tous les gens qui prennent ces substances disent à la fin, mais écoutez, j'ai pas la peur de mourir, car je comprends que c'est pas la fin. Il y a des choses qui vont se passer au-delà de ça. Et ça, je trouve, c'est très intéressant. Et c'est pourquoi je pense que ça vaut la peine de lire le bouquin, parce que il nous donne des réponses à des questions fondamentales.
Effectivement, ce qui est intéressant avec votre roman, c'est qu'il inverse la perspective. Autrement dit, en refermant le livre, on se demande si le cerveau est bien générateur, créateur de conscience, ou s'il n'est pas plutôt récepteur de conscience. Est-ce lui qui détermine notre rapport au monde, aux choses, aux gens, ou bien l'inverse?
Oui, en effet. Parce qu'il y a une... Bon, ça c'est compliqué, c'est la physique, mais il y a un sujet intéressant dans la physique, c'est la fonction d'onde. La fonction d'onde, c'est en effet une sorte de champ fantôme, comme aucun fantôme dont Einstein l'appelait ainsi, Geschwisterfeld, le champ fantôme, une sorte de réalité virtuelle. Et ce champ fantôme, il devient réel par la conscience. Le champ fantôme, il est dans tout l'univers. Ça, c'est physique, hein. C'est pas une connerie de mon imagination. C'est la science des gens qui gagnent le prix Nobel de la physique grâce à ces découvertes.
Oui, vous n'avez pas consommé de psychédéliques
oui,
avant cette interview.
Non. Et chaque objet, chaque chose a ce champ fantôme, cette fonction d'onde. Une particule, elle a un champ fantôme, un champ virtuel. Un atome, la même chose. Une molécule, la même chose. Une personne, la même chose. Même la Lune a un champ fantôme. Et ce champ fantôme, il va se relier au champ fantôme universel. Ça, c'est la physique encore. Et ce que les gens disent quand ils prennent ces substances, c'est qu'en effet, il y a une conscience, ils disent, une conscience universelle, une sorte de champ fantôme universel. Et chacun de nous, quand elle meurt, on revient à ce champ fantôme universel, à cette fonction d'onde. Et c'est ça que nous amène à les liaisons à la physique et à la mathématique, qui est, je trouve, très intéressant et peut-être un petit peu trop pointu, mais quand même fort intéressant et ce que donne plus d'intérêt à lire le livre, au-delà de l'histoire d'espionnage et du polar et tout ça.
Évidemment, et depuis tout à l'heure, on parle de psychédéliques, mais ces substances sont aussi appelées entéogènes. Est-ce que vous pouvez définir ce mot, entéogène?
Oui, entéogène, c'est une expression qui est née, ça veut dire le divin à nous, Dieu à nous. Alors, on croit que ces substances nous amènent à à comprendre des choses à un niveau plus élevé. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Quelle est la vraie nature de la réalité? Il y a une chose intéressante, c'est une citation que je donne à la fin du livre d'un Portugais, du plus grand philosophe portugais, qui c'est
Spinoza, évidemment. Spinoza. Puisqu'évidemment, moi, votre livre, il questionne indirectement l'existence même de la religion, puisque si à travers des substances hallucinogènes, en consommant des produits entéogènes, en suivant la voie des psychédéliques, on atteint le divin, ou du moins on arrive à se mettre sur la même fréquence que le monde et à percevoir le divin des choses et le divin qui nous constitue, oui. Moi, ça me fait penser directement au Deus Sive Natura de Spinoza.
Exactement.
Dieu, c'est la nature. Spinoza, Dieu est ce qui nous entoure. Alors, à quoi bon la religion dans tout ça?
Oui. Spinoza, dont le vrai nom était Bento de Spinoza.
Exactement, un portugais.
Il était un portugais. Son père, il était de Alentejo. Mm-hmm. Et sa mère, de Minho ou Porto, on n'est pas, elle s'appelait Ana Maria, Ana Rebeca Gomes Garcês. Et son père, Miguel de Spinoza.
Et donc, effectivement, Spinoza est né de parents portugais.
Oui, il est né à Amsterdam, mais son père, oui, exactement. Son père est d'Alentejo et sa mère de Minho ou Porto, on n'est pas très sûr à ce sujet. Et alors, Spinoza, il a écrit, c'est une citation finale de mon bouquin. Mm-hmm. L'esprit humain est une partie de l'entendement infini de Dieu. Par suite, lorsque nous disons que l'esprit humain perçoit telle ou telle chose, ce que nous disons, c'est que Dieu a telle ou telle idée, non pas en tant qu'il est infini, en vérité, mais dans la mesure où il se manifeste à travers la nature de l'esprit humain, ou en tant qu'il constitue l'essence de l'esprit humain. Voir.
Et ben
ce
voilà,
que je voulais dire, c'est que l'être humain, il est aussi divin. Il est une partie de Dieu. Voir, il est une partie de la nature. Car il divinise la nature ou il naturalise Dieu, si on veut. Et c'est ça ce que les entéogènes, les hallucinations nous disent. L'esprit humain, il est parti de l'univers, il est parti de Dieu, pour ainsi dire. Et voilà pourquoi on dit entéogène, le divin à nous, Dieu à nous. Car chacun de nous a cette étincelle de Dieu, de divinité qui est là. Et c'est pourquoi les gens qui prennent ces substances perdent la peur de la mort. Mmh. Parce qu'ils arrivent à la conclusion, ils disent, mais la vision que j'ai eue, c'est plus réel que la réalité. Et c'est très clair. La mort n'est qu'une transition pour une autre chose. On revient à la conscience universelle. Voir ce que Spinoza appelait Dieu ou la nature. Hein. Et nous sommes qu'une partie de cette nature plus longue. Alors, l'impression que nous avons, et ça c'est une idée très importante dans le livre et dans la science, c'est que chacun de nous a l'impression d'être individuel. Chacun de nous est séparé des autres. Mais ce que les entéogènes nous disent, les psychédéliques, et aussi la science, c'est que, en effet, c'est une illusion. Nous sommes liés tous. Et la physique nous dit la même chose. Tout est lié à tout, on appelle ça... Je connais l'expression anglaise « entanglement », qui a donné le prix Nobel de la physique à Alain Aspect, le français, il y a 2 ans.
Et vous avez abordé cette question dans la formule de Dieu.
Exactement, et dans la clé de Salomon, il y a aussi John Clauser, Alain Aspect, et Antoine Salinger, l'Autrichien, ils ont gagné le prix Nobel de la physique il y a 2 ans, pour parler de que l'univers, tout est connecté. Alors, la diversité est une illusion. Tout est la même chose. Et c'est ce que les gens disent. C'est pourquoi le mec... qui était très violent, il disait, mais je suis très agressif, mais finalement, nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous la même chose. La division entre nous, ce n'est qu'une illusion. Et c'est ça que c'est très intéressant, et c'est pourquoi que je trouve qu'il faut en parler, expliquer cette chose, que c'est le message fondamental. Et en effet, vous savez, tous les ingénieurs qui ont développé l'Internet et l'ordinateur individuel, le personal computer.
Oui, finalement, Internet, c'est une matérialisation de cette idée, en fait.
Exactement. Ils étaient tous dans les psychédéliques. Ils prenaient le LSD, les psilocybines, tout ça, les champignons. Et ils se sont dit, il nous faut créer un réseau universel où tout le monde est en contact, car nous sommes tous la même chose. C'était le message des psychédéliques qu'ils prenaient. Alors, ils ont développé l'Internet pour connecter tout le monde. Et l'ordinateur personnel, c'est quoi? C'est donner le pouvoir, parce que l'ordinateur à cette époque-là, c'était une grande entreprise, comme IBM, par exemple, qui avait un grand ordinateur, ordinateur et tout ça. Et ils ont dit non, il faut que chacun de nous a son ordinateur. Et maintenant, nous avons l'ordinateur dans le portable même. Mmh. Alors, c'est une façon de distribuer le pouvoir pour toute la société. Et la société n'est qu'un ensemble, ensemble presque vivant, pour ainsi dire. Comme chacun de nous, nous avons des cellules. Et nous sommes un ensemble de cellules. Et la société est un ensemble de cellules aussi, des personnes. Et chaque espèce vivante, les hommes, les chiens, les vaches, les arbres, les oiseaux, n'importe quoi, tous ces parties sont, chacun c'est un groupe, mais tout est lié aussi dans un ensemble. Et le même pour l'univers. C'est comme une sorte d'organisme, pour ainsi dire. C'est le message des psychédéliques. Et en effet, cette message, elle est très présente chez ces ingénieurs qui ont développé les ordinateurs et l'Internet comme Steve Jobs. Il a dit que beaucoup de choses qu'il a fait, c'est basé sur les psychédéliques. Il y a même le mouvement écologiste. C'était un mec, un Américain. Il était avec les psychédéliques et puis il regardait la lune. Il a dit, mais il nous faut avoir une image de la Terre. Alors il a organisé une campagne dans les médias pour que la NASA prenne une photo de la Terre. On n'avait aucune photo de la Terre prise de l'espace. On prenait des photos des étoiles, des planètes, mais pas de notre planète. Alors après cette campagne, cette campagne s'appelait World Earth. La Terre globale, pour ainsi dire. Ils ont convaincu la NASA à tourner la caméra pour la Terre. Et là, ils ont pris la première photo de la Terre prise l'espace. C'était un résultat d'une campagne qui était le résultat de quelqu'un qui avait consommé des psychédéliques. Et quand on a vu l'image, cette image a eu une énorme puissance dans les mouvements écologistes. Car ils ont dit, mais nous sommes dans la même planète, dans ce grand vide noir. Il y a cette chose bleue, blanche, et jaune, et marron, et tout ça. Et c'est où nous vivons. Et ça a beaucoup changé notre monde, cette compréhension que nous sommes dans la même planète. Nous sommes tous ensemble, comme si nous sommes le même organisme.
Mais alors, José Rodrigues dos Santos, je le rappelle, vous êtes journaliste, reporter de guerre, présentateur du 20h sur RTP, le service public portugais. À vous entendre, on a l'impression d'entendre un gourou. On a l'impression presque d'entendre un complotiste. Ça paraît fou d'entendre ces mots dans votre bouche.
Non, non, en effet, bon, ce sont des découvertes scientifiques. Je parle de science, en effet. Ce que je fais dans mes bouquins, c'est... J'utilise une histoire. J'appelle mes bouquins pas des passe-temps, mais des gagne-temps, voire on passe d'un par quart, on voit une histoire d'espionnage, un polar, un thriller, mais on apprend des choses vraies, des choses qui ont été découvertes pour les scientifiques, car tout ce que je dis dans le bouquin, c'est certifié. Hein.
Oui, ça a été lu et revu, je le rappelle, par un spécialiste du Centre Champalimau à Lisbonne.
Oui, un médecin.
Et comme souvent, tous vos romans sont inspirés de faits réels.
Exactement. Alors, ce que je fais, je ne fais que vulgariser des connaissances scientifiques. C'est ça mon projet de fiction. Alors, c'est pourquoi j'appelle mes bouquins, mes romans, des gagne-temps. Car on passe le temps à le lire, on s'amuse à voir l'histoire, mais on apprend des choses vraies. Mmh. Et on comprend mieux notre monde. Et vous savez, on se plaigne souvent des politiciens qui, oh, ils nous trompent et tout ça. Mais ils nous trompent parce que nous sommes des ignorants. Et c'est plus difficile de tromper une personne qui n'est pas ignorante. Car on comprend les choses. Et c'est ce que j'essaie de faire, de rendre les gens, j'espère, un petit peu plus connaissante des choses, plus sage, et une personne qui comprend les choses, et une personne plus puissante et plus difficile à tromper.
Ou pauvre, ou avec Emma Jordan, c'est le peuple qui commande.
Je dirais c'est la connaissance qui commande. Car le peuple peut être erroné souvent. Il y a des gens qui disent, ah, la démocratie, le peuple vote toujours bien. Mais Hitler, il a été voté.
Il a été élu démocratiquement, vous voulez dire.
Exactement. Alors, c'est pas vrai que le peuple ne se trompe jamais. Non, le peuple se trompe, évidemment, parce que nous sommes des êtres humains. C'est normal. Mais on se trompe quand... quand on n'a pas de connaissances. Alors je dirais pas le peuple c'est le pouvoir, ou pour Vekemazorden, mais plutôt la connaissance c'est le pouvoir.
Le Portugal est le pays du monde qui consomme le plus d'anxiolytiques. Dans le pays, 100 000 personnes souffriraient de maladies mentales lourdes et chroniques. Et les Portugais sont donc les plus importants consommateurs d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Les Portugais devraient-ils tous lire votre livre et consommer des psychédéliques?
Ils seraient guéris. Mais c'est vrai. Et c'est pourquoi, en effet, ce livre-là, Le Sixième Sens, en portugais, ou Sexto Sentido, c'était le deuxième livre le plus vendu de l'année. L'année passée au Portugal, après Astérix en Lusitanie.
Juste après une sacrée institution.
Oui, voilà. Alors, ça montre que c'est un livre qui dit beaucoup aux Portugais. Vous êtes exact. Les études montrent que le Portugal, c'est le pays où il y a plus de consommation d'anxiolytiques dans le monde. C'est incroyable, mais c'est vrai.
Et pourquoi, à votre avis?
Bon, je trouve pas que les Portugais sont plus malades psychologiquement que les autres. En effet, quand j'ai vécu en Angleterre pendant quelques années, je travaillais pour la BBC, et je trouvais toujours, tous les jours, je trouvais une personne à Londres qui parlait toute seule. Il était évidemment un petit peu perturbé. Au Portugal, je trouve une personne qui parle toute seule dans la rue, une fois chaque deux ans. Et là, c'était tous les jours. Alors, c'est pas que les Portugais ont plus de maladies psychiatriques, non, pas du tout, au contraire. Mais, pour répondre à votre question, pendant la Covid, ma fille, celle qui m'a donné l'idée, Inès. M'a donné l'idée de ce livre, et elle habite à Londres, elle était là, et au commencement de la Covid, vous savez, dans la Covid, il y avait des gens qui paniquaient avec la Covid, il y avait des gens qui n'était pas concernée, pas du tout. Elle avait des réactions différentes. Inès, elle paniquait. Elle avait beaucoup de peur.
Et alors, fille, donc.
Exactement. Tandis que l'aînée, elle se moquait. La plus jeune, elle paniquait à Londres. Elle dit, mais les Anglais sont fous, car ils font des fêtes, ils sont dans les discothèques, c'est une folie, ça sera un désastre et tout ça. Et alors, je lui ai appelé, j'ai dit, mais il faut que tu viennes au Portugal, car tu es trop perturbé. Hein. Et alors, elle est revenue au Portugal, elle est passée la Covid.
Le confinement au Portugal.
Le confinement, je l'appelle le Covidement. Elle a passé le Covidement chez nous. Et le premier jour, elle était très instable. Alors, je lui ai amené à Continent, le supermarché. Et soudain, elle a vu, mais ici au Portugal, tout le monde respecte les règles. Alors, il avait des files, les gens prenaient les distances, tous les gens avaient des masques. C'était le contraire de l'Angleterre. Et alors, elle s'est dit, mais dis donc, non. Alors, elle s'est calmée beaucoup. Mmh. Bah non, les gens ne sont pas, ils sont raisonnables ici. Et après, on a créé la vaccine. Et vous savez qui est le pays où il y a une plus haute taux de vaccination? Le Portugal! C'est le plus haut taux de vaccination contre la Covid. C'est 98% de la population qui a pris, c'est énorme. Aucun autre pays a une... Il y a les Émirats arabes qui ont une chose proche, 97% je pense, mais le Portugal c'est le premier pays.
Donc qu'est-ce que vous voulez nous dire, les Portugais sont particulièrement obéissants?
Ils ont peur de mourir, ils ont peur des maladies. Quand on parle avec les Portugais, on parle beaucoup, les Anglais, on parle beaucoup de la température, la météo, tout ça. Les Portugais parlent beaucoup de maladies. J'ai trouvé que les Portugais ont beaucoup de peur de mourir. Mm-hmm. Et c'est pourquoi ils prennent beaucoup d'anxiolytiques. Ils ont peur des choses, vous comprenez? C'est ma théorie. Parce que c'est pas raisonnable de dire que les Portugais, ils sont psychiatriquement pires que les autres. Non, pas du tout. C'est le contraire. On est fou dans un certain sens, mais pas dans ce sens.
Et plus sérieusement, les recherches développées dans votre roman pourraient-elles ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques au Portugal?
Oui, mais partout dans le monde. À cet instant, Infarmed a autorisé kétamine pour les traitements, mais je pense que bientôt ça sera la psilocybine, tout ça. En France aussi, la même chose, dans tout le monde. Après cette expérience dont je vous ai parlé à Johns Hopkins en 2006, qui a tout changé, ça commence. Et même moi, j'étais invité pour l'hôpital psychiatrique de Lisbonne, Júlio de Matos, pour faire une présentation sur les psychédéliques. On a discuté avec les psychiatres et maintenant je suis invité pour un autre événement avec des psychiatres portugais, car les psychiatres sont très intéressés. Vous voyez, les gens que ils ont des dépressions et tout ça, ils prennent 2 années de session pour se guérir et avec les psychédéliques, ils peuvent se guérir avec une session seulement. Pas 2 années de session, une session. Ils sont guéris de la dépression. C'est énorme comme utile thérapeutique pour ce genre de choses. Et comment ils se guérissent par les vérités qu'ils voient. Car une personne, elle est déprimée parce qu'elle trouve que la vie ne vaut pas la peine de la vivre. Et les gens qui prennent les hallucinogènes, ils disent non, mais on commence à voir la nature d'une façon différente. Par exemple.
Et surtout, on comprend que tout est lié, d'un point de vue macroscopique et microscopique.
Exactement. Et plus que ça, on redécouvre la magie de la nature. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Un enfant, elle regarde une fleur, elle est émerveillée par la fleur. Elle regarde un chien, elle dit « Oh, tiens, un chien !» Elle regarde le chien très attentivement. Et elle regarde une arbre très attentivement. Et nous regardons une fleur, et bon, c'est ça. Et on change, on regarde un chien, oh, c'est un kleps. Et on regarde un arbre, oh, ok, c'est un arbre. On a perdu cet enchantement envers la nature. Et les gens qui prennent les hallucinogènes récupèrent cette vision. On comprend que la nature, elle est magique, elle est divine, pour ainsi dire. Et c'est pourquoi elle a ce changement chez nous. Nous récupérons cette capacité de nous enchanter pour les choses simples, pour voir la magie où elle existe là, mais on l'a normalisée, pour ainsi dire. Et on change la perspective de tout. On comprend le miracle, la vie, et on comprend que quand on meurt, notre ego, il va disparaître, certes, mais la conscience, elle va rester là. Nous ne serons pas disparus d'une façon complète, ça sera une chose différente. C'est ce dont je parle dans le sixième sens.
Exactement, et je vous promets de retrouver votre réenchantement d'enfant à la lecture de ce livre, Le sixième sens, publié aux éditions Hervé Chopin. C'est votre nouveau livre, la 18e publication en français, puisque 18 de vos ouvrages ont été publiés. Le plus récent, c'est celui-là, donc Le sixième sens, Hervé Chopin. Ça sort dans toutes les bonnes librairies le 9 avril prochain. C'était donc notre sixième interview ensemble pour parler de ce roman, Le sixième sens.
Oui, et le dernier bouquin dont je vous ai donné une interview il y a un an, c'était le protocole KO, où j'ai expliqué que Donald Trump était en train de détruire l'Occident, d'attaquer l'OTAN et tout ça. Les gens disaient « Oh non, vous êtes pessimiste ». Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et vraiment, un utile au monde de Vladimir Poutine. Alors encore, un autre roman qui nous amène aussi à comprendre le monde, en vulgarisant les connaissances que normalement sont seulement dans des textes très pointus.
Encore une prémonition, donc je pense, José Rodrigue Justins, que vous consommez des psychédéliques pour écrire vos romans.
mes psychédéliques sont les bouquins, c'est la connaissance, j'espère.
Grande abraço, José.
Obrigado.